franceinter.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Pierrick Monsigny et Anne Le Guéhennec à la technique et assisté de Stéphane Combe et de Albert Houck. C'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur qui nous emmène au pied des Cévennes, dans le Gard. Dans greenwashing, bah évidemment, il y a green. Et qu'évoque donc le mot green? Et bah, bien sûr, le golf, à savoir une gigantesque pelouse parsemée de piquets couronnés de petits drapeaux colorés, pour y jouer souvent entre gens de bonne compagnie. Activité par ailleurs tout à fait relaxante, technique et passionnante. Et comme c'est vert du sol au plafond, un golf, et bien tout de suite, ça vous délivre une image de naturel que même un aéroport high-tech envisagé dans l'ouest de la France ne parvient pas à égaler. Évidemment, si on y regarde un peu plus près, côté intrant, et bien la belle pelouse verte n'est pas verte sans raison. Sa gourmandise n'a rien à envier à celle d'un maïs subventionné par la PAC. C'est en effet un gazon atteint d'une soif perpétuelle, un golf de 18 trous, donc siphonne environ ce que consomme en eau potable une ville de 10 000 à 15 000 habitants. Alors certes, à ce stade, on s'éloigne du trou pour entrer dans la catégorie du gouffre. Même si, d'ailleurs, il faut le dire, pas mal de golfs ont fait des progrès, ils rationalisent, ils économisent. Eh bien, ce cahier des charges ne pèse pas bien lourd quand on a un authentique projet à promouvoir depuis 9 ans. On peut même s'affranchir des contraintes posées par la perfide sécheresse qui sévit régulièrement au pied des Cévennes, le réchauffement climatique, les alertes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, la rareté de la ressource qui en découle, la disparition de la dernière grande zone agricole de la commune pointée par le Scott Pays de Cévennes et la Safer, la consommation d'espace naturel. Eh bien, même pas peur, pas du tout, la communauté d'agglomération du Grand Alès envisage en tout cas sur la commune de Saint-Hilaire de Bretmas dans le Gard, donc de créer sur plus de 250 hectares, ça fait quand même un quart de la commune, et pour la somme modique de 20 millions d'euros, la bagatelle de deux golfs, l'un de 18 trous, l'autre de 9, je pose mon 18, plus 9 égale 27, et un 28e trou est en option, celui qui pourrait voir le jour dans les finances publiques locales. Car pour l'instant, eh bien, le mode de gestion du futur golf n'est pas encore arrêté. Alors, vous êtes contribuable et vous avez une âme de mécène. Investissez dans l'intérêt général, parrainez un golf, si possible dans une région où la ressource en eau posera vite problème. Alors un golf, d'accord, mais une fois de plus, on n'a rien contre le plaisir, hein, c'est pas ça. Mais pas n'importe lequel. Louez donc plutôt la beauté de celui de Gascogne ou du Morbihan. Au menu de cette émission, vous le savez, c'est un magazine, on feuillette donc différents chapitres. Il y aura l'actualité avec Nathalie Fontrelle. On aura même une histoire scientifique de rats, sans doute avec Jean-Marie Pelt, oui. Et puis, je vous emmène, tenez, dans un coin superbe, dans le centre de la France, dans le département de l'Indre.
Ce qui est vraiment sympa ici, c'est les colonies d'oiseaux d'eau, de guifettes, de grèbes, de machins. On voit tous ces animaux qui viennent, qui se déplacent, qui ont des relations de voisinage, qui se chamaillent, qui vont plonger au fond de l'eau, rattraper une tige de végétation, il y a la guifette qui va arriver, qui va voler ça aux grèbes, c'est des chamailleries sans cesse, et c'est un petit village quoi, c'est vraiment très très sympa à voir. Et c'est unique, c'est en France, on n'a vraiment pas d'autres régions comme ça, quoi.
Et cette région en question, eh bien, s'appelle la Brenne. Donc on va se prendre de l'air, on va découvrir donc, un milieu, ces fameuses zones humides avec Nicolas Van Lingen, qui est un formidable photographe. Et puis comme on aime prendre le pouls de la planète dans cette émission, eh bien, on va se rencontrer un homme qui dirige l'association et l'environnement à Madagascar, qui est là-bas. Bonjour Olivier Béra.
Bonjour Denis, comment ça va?
Bah écoutez, le lien environnement-avenir des hommes n'occupe pas forcément une grande partie de nos cerveaux actuellement, mais comme nous sommes dans l'optimisme de l'action, ce qui est quand même une ligne de force dans cette émission, on se tourne vers vous. On se tourne vers vous, vers cette île où vous êtes, bon, qui est un peu plus grande que la France en superficie. On est au sud-est de l'Afrique, donc séparé du continent par le canal du Mozambique. Beaucoup de pauvreté, on le sait, des régions déboisées. Mais alors vous ne baissez pas les bras. Avec votre association, l'homme et l'environnement à Madagascar, il y a une biodiversité qui est folle sur cette île, et on peut en faire un atout pour les habitants et l'environnement, car leur sort est lié.
Ben, je vous dirais, Denis, c'est pas qu'on peut en faire quelque chose, c'est qu'il faut
en faire quelque chose, c'est qu'effectivement la situation politique est grave et elle a des répercussions économiques dramatiques au niveau des populations. Mais Madagascar abrite 10 000 plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Donc sur 13 000, il y en a 10 000 qui sont endémiques à Madagascar. Et ces plantes-là, eh ben, ce sont aussi des plantes médicinales, ce sont des plantes qui servent à faire des médicaments. Il faut savoir que la pervenche de Madagascar permet maintenant de traiter la leucémie infantile. 80% des enfants sont traités grâce à une molécule extraite de cette plante-là. On a encore besoin de la plante, on n'arrive pas à synthétiser les molécules. Donc si on perd la biodiversité de Madagascar, eh ben, on perd des médicaments, on perd des produits cosmétiques, on perd beaucoup de choses dont on a besoin dans le monde développé.
Que faites-vous concrètement avec la population pour les mettre dans la boucle de manière positive, puisque la plupart du temps, malheureusement, s'il s'agit de savoir ce que l'on va manger le soir même et savoir si le lendemain on va encore être sur cette terre, pour faire très simple. Donc que faites-vous? Comment prenez-vous les choses?
Il faut que les gens voient la valeur de ces plantes. Jusqu'à présent, depuis les années 50, on a acheté des produits. Personne ne sait plus maintenant d'où ça vient, les produits. Et les populations locales, souvent, touchent très très peu d'argent des plantes qui sont exportées pour faire ces médicaments, pour faire ces produits cosmétiques. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est créer une plus-value auprès des communautés locales. Donc on est allé jusqu'à des choses un petit peu folles. C'est aller loin dans la montagne, prendre des pirogues et puis amener des alambics qui servent en fait à extraire des plantes sur le terrain, les produits qui vont faire des parfums, qui vont faire des produits cosmétiques et qui permettent donc de faire une valeur ajoutée pour les communautés locales à ces plantes-là.
Aujourd'hui, vous travaillez sur quelle superficie et avec combien de personnes ?
À l'heure actuelle, on travaille, on doit avoir, on a 6 aires protégées qui doivent représenter à peu près 30 000 hectares en tout de surface forestière unique. Il y en a dans les forêts de moyenne altitude, dans les montagnes. On en a sur la côte est, le long de l'océan Indien, on en a sur la côte ouest aussi. Donc on a essayé de diversifier pour montrer que notre modèle était duplicable. Et on doit avoir à l'heure actuelle à peu près 3000 personnes qu'on touche à différents niveaux, je veux dire, dans nos activités.
Aujourd'hui, ces personnes, évidemment, vivent mieux. Si je prends un exemple, on va aller dans la région de Voimana. Donc, que se passe-t-il là? Parce qu'en même temps, il y a évidemment des primates que l'on connaît et qui sont assez incroyables sur cette île de Madagascar, puisque donc elle a été coupée de l'Afrique il y a déjà quelques millions d'années. Et puis, donc, d'autres espèces endémiques. Comment cette petite région donc, a évolué grâce à votre action?
Quand j'ai décidé de m'occuper de cette petite forêt qui n'avait pas de statut de conservation, qui n'était pas protégée, qui abrite 11 espèces de primates, elle abrite 57 espèces de grenouilles. Il faut savoir que dans toute l'Europe réunie, il n'y en a que 24, donc ça veut dire 2 fois plus de grenouilles sur 6 km². Et quand on a décidé de s'occuper de ça, ben c'est parce que je voyais qu'il y avait du potentiel. Maintenant, et encore une fois, il y a encore beaucoup de travail, mais la déforestation a été arrêtée, alors que cette forêt avait perdu la moitié de sa surface en 40 ans. Maintenant, il n'y a plus de déforestation. On a réussi à mettre en place des programmes de reboisement. On a des entreprises cosmétiques qui nous soutiennent maintenant, qui ont réalisé qu'ils avaient un rôle important à jouer là-dedans et qui soutiennent. Il y a des constructions d'écoles qui ont été faites. Il y a des cantines scolaires. Les enfants sont nourris tous les jours. Il y a des sages-femmes qui sont là pour aider les femmes. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvreté, encore un long travail à faire, mais en tout cas, on arrive à inverser les tendances.
Qu'est-ce qui vous anime, Olivier Bérard? Pourquoi vous êtes tombé amoureux de Madagascar et vous êtes dit, bon, allez, c'est pas possible de regarder ce monde tel qu'il est, on va essayer de le changer?
Il y a la beauté des paysages. Madagascar est un pays fantastique, d'une diversité incroyable. Il y a tout l'ouest malgache qui est des forêts sèches, il y a des baobabs. Dans l'est, vous avez des forêts tropicales humides, plein d'espèces animales incroyables. Donc il y a ces paysages-là. Et puis, il y a que j'ai des enfants. J'ai des enfants et je sais que ces plantes, ces forêts malgaches abritent des plantes qui sont importantes pour l'humanité et il faut se battre pour ça.
Olivier Bérard, donc vous fonctionnez aussi à l'exemplarité. On espère que ça va faire tache d'huile. Comment ça va s'étendre ?
Ben là, moi, en fait, ce dont je suis le plus fier, c'est pas de ce que j'ai réalisé à Madagascar, c'est surtout d'avoir pu transmettre ça. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de dupliquer ce modèle. Donc j'ai la chance de trouver un ami qui m'a aidé, qui est un patron d'une grande chaîne de magasins, qui fait des meubles et des trucs exotiques. Et maintenant, on arrive à étendre ce modèle. Donc là, en un an et demi, on commence à travailler. J'ai les équipes malgaches qui sont autonomes et on commence à soutenir d'autres pays. Donc là, on est parti avec une organisation que j'ai créée qui s'appelle Man and Nature. Et on est en train de travailler au Pérou, au Cambodge, en Équateur, je dirais au Burkina Faso, au Cameroun, dans une dizaine de pays pour commencer, pour montrer qu'un peu partout sur la planète, c'est pas une spécificité à Madagascar, les forêts disparaissent, mais on peut aussi trouver des solutions pour que les populations locales se rendent compte de la valeur de cette forêt et les impliquer dans la conservation.
Celles et ceux que vous intéressez, c'est principalement le domaine cosmétique, le domaine pharmaceutique, et donc après, évidemment, ils soutiennent votre action parce qu'il faut quand même de l'argent, et on se doute bien que ce n'est pas forcément Madagascar que vous allez le trouver.
Le domaine cosmétique, parce que les gens sont sensibles. Maintenant, les femmes, elles ont envie de savoir ce qu'elles mettent sur le visage, elles ont envie de savoir d'où ça vient, que ça ne fait pas travailler des petits-enfants. Donc ça, c'est un peu là où on est le plus sensible. Mais moi, l'alimentaire touche aussi, on consomme des produits, vous avez entendu parler de l'huile de palme, des fois c'est pas bien, des fois ça peut être bien. Donc il y a toute l'industrie, toute l'économie du monde moderne et a un lien plus ou moins direct avec ce qui se passe dans les forêts tropicales. Et donc maintenant j'espère bien qu'on va réussir à impliquer tout le monde, des entreprises, même de l'énergie, des choses comme ça. Il faut que tout le monde s'implique maintenant.
Merci à vous Olivier Béra pour votre enthousiasme, votre façon de faire. L'homme et l'environnement à Madagascar et... Ah bah oui, il a crié, c'est normal. Non, il s'est pas coincé, c'est pas un chat, c'est pas du tout. Non, c'est Soul sur France Inter, choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. Et qui nous chante quoi ? Chanteur bio. Et le deuxième volet, eh ben, ce sera un reportage grand air dans la Brenne.
Dans la doublure de mes habits, de mon joli pull canari, sur toutes mes bouteilles de vin rouge, on a collé des étiquettes sur tout ce qui bouge. Les films, les bouquins, les chansons ne font pas figure d'exception. Du coup, j'ai trouvé mon filon. Sur la planète, je crois que je suis premier du nom. Je suis le chanteur bio, 100% naturel, biomadégaine de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bio, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Soul, y'a qu'à voir. Pose-toi sur ma branche, renifle un pétale. Toum, 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 tourne le bouton dans la radio. Toum, 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 que du mauvais son dans ton auto. On a combattu la malbouffe, mais la musique de fast-food. Faut qu'un justicier lui barre la route. Y'a pas de doute, il faudrait un super-héros. De Nicolas Hulot avec trois lettres sur son dos. B-I-O, tout le monde. B-I-O, je suis le chanteur bien. 100% naturel, et on a des graines de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bien. Chanteur bio.
Mais oui, chanteur bio et le soul, comme il le dit aussi, tout à fait. On ne remerciera jamais assez le soul, quand même, qui nous a donné aussi l'acide salicylique. Eh oui, l'aspirine, ça peut quand même servir de temps en temps. Je vous emmène maintenant dans le centre de la France. Respirez, ça s'appelle la Brenne.
Martin Pêcheur.
Oula, d'accord.
Il passe là.
Oh là 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 là. Puis les couleurs dans le ciel, c'est incroyable. Hein. Alors lui, il va se nicher en général sous les ponts.
Ce qu'il aime bien ici, en fait, c'est se mettre derrière les digues d'étang.
Ah, c'est ça.
Il a un habitat très particulier. La digue, elle fait un petit rehaussement de 2 mètres, quoi. Ouais. Et c'est souvent là-dedans qu'il trouve les endroits pour creuser son terrier, pour faire son nid.
Ok. Puis il y a la huppe, qui est quand même un des oiseaux emblématiques.
Ouais, la huppe, c'est vraiment un oiseau sympa, parce qu'il n'est pas lié à l'étang, mais par contre, c'est le signe très clair qu'il y a une grande richesse en insectes dans la région, donc voilà, des prairies en bon état, Pas de pesticides, pas d'herbicides, un milieu naturel bien conservé, quoi.
C'est assez... Il y a un choc complet de culture, au sens propre comme au sens figuré, parce que quand on arrive ici, donc on traverse la Champagne berrichonne, où là, c'est à peu près comme la Beauce, c'est-à-dire biodiversité quasiment zéro. Et puis là, on arrive ici, c'est l'inverse, quoi.
Ouais, exactement. Et puis ce qui est rigolo, c'est que bon, la Champagne berrichonne, cette espèce de Beauce aride, c'est la région riche du département, et la Brenne était considérée vraiment comme moins que rien dans la zone, quoi. Et en 15-20 ans, là, la Brenne est devenue le joyau de la région. Toute la communication se fait là-dessus parce qu'on se rend compte que la nature, c'est important, quoi. Et ça devient un endroit que les gens recherchent.
Notre page nature aujourd'hui, donc, c'est à la rencontre du Berry, de la Touraine, du Poitou, du Limousin, qui n'est pas loin. Et donc, la Brenne, c'est une des plus importantes zones humides aujourd'hui continentales, qui est d'importance internationale, hein. Alors, on se trouve en fait au cœur des 183 000 hectares du parc naturel régional de la Brenne. Alors, vous avez Mézières, qui n'est pas loin, Le Blanc, Renais, qui n'est pas loin non plus. Et puis, surtout, à nos côtés, il y a Nicolas Van Ingen. Alors, c'est un nom, on s'est dit, c'est un nom hollandais. Oui, mais en fait, il est complètement né. Hein. Il est né à la Maison des Bois, donc il est né absolument dans la Brenne. C'est un homme qui sillonne le monde, c'est un formidable photographe. Et donc c'est lui qui va nous emmener principalement hein, au milieu de ces étangs. Et à Nicolas Van Ingen, en fait, de quoi est faite cette Brenne? C'est parce que c'est un paysage qui est modelé par l'homme.
Ah oui, ça c'est effectivement pas du tout naturel, contrairement à ce qu'on peut croire en voyant ici. Là, on a devant nous un étang avec de la végétation, tout est derrière sauvage et spontané. Ouais. Et en fait, tous ces étangs sont artificiels, ont été créés par la main de l'homme. Ça a commencé avec les moines, hein, après le Moyen-Âge. Ouais. Et puis ça continue encore aujourd'hui. Il y a toujours des étangs qui se créent encore maintenant. Et on en a bientôt 3000, 4000 sur toute la région.
Ouais, quand on dit le pays aux 1000 étangs, il faut multiplier par 3 ou 4.
Oui, exactement, il faut multiplier un petit peu, ouais.
Le sol en train de fouler quoi? On a bien sûr ce monde végétal, mais dessous, pour que ce soit imperméable, qu'est-ce que c'est?
Alors, toute la Brenne, c'est une cuvette qui est faite de grès, hein, qui est un matériau imperméable, de sable compacté. Et le grès est présent partout, à entre 0 et 1 mètre de profondeur, suivant les endroits. Ce qui fait que ça crée ces sols imperméables dont ont profité les moines pour faire leurs étangs. Il suffisait de barrer avec une petite digue l'aval et on avait une poche d'eau qui se créait en amont. Et voilà, ça a donné ces étangs qu'on voit ici. La mer Rouge, par exemple, qui est le plus grand avec 160 hectares et puis des milliers d'autres plus petits.
Ah, il y a un étang qui s'appelle l'étang de la mer Rouge.
Étang de la mer Rouge.
Il va y avoir un croisé qui a dû venir de là-bas.
Oui, on en a d'autres, des comme ça. Il y a l'étang de Madagascar, l'étang du Maroc. Voilà, il y a des voyageurs qui sont venus ici.
Pour les amoureux de la nature, de la biodiversité, la Brenne, c'est un joyau.
Oui, c'est ce qu'on retient en général ici, c'est les étangs, hein, les oiseaux d'eau principalement, et puis toute la végétation qui est sur le cœur de l'étang, qui est assez unique en France. Hein,
C'est-à-dire qu'à la fois lieu de migration, parce que lorsque nos oiseaux repèrent ces miroirs vus du ciel, tac, ils se posent, et aussi lieu de nidification.
Oui, c'est exactement ça, ouais. C'est lieu de transition pour les migrateurs qui vont dans le Grand Nord. Et c'est un lieu de nidification pour un certain nombre d'espèces qui vont passer l'hiver en Afrique et qui viennent nicher ici. Les plus connues étant en local, la guifette moustaque, le grèbe-à-cou noir, après des canards, le canard milouin, le busard des roseaux, les hérons, les hérons pourprés, etc.
Bon, et là, ça croise tout à fait gentiment, parce qu'il y a quand même du monde là-dedans, voilà. Hop, ça saute en permanence. On va laisser passer le camion quand même, voilà. Parce que... Et alors, on a aussi des visiteuses qui se portent très très bien depuis longtemps, c'est les fameuses cistudes. Donc ce sont nos tortues d'eau douce, carnassières, qui sont dans ces étangs.
Ouais, et on a la chance d'avoir en Brenne la population la plus florissante de cistudes en France, là. Il y a quelques dizaines de milliers de cistudes probablement sur toute la région. Et elles se portent assez bien. C'est des animaux qui vivent longtemps. Ils peuvent vivre 60 ans, voire 70, 80. Ça se reproduit une à deux fois par an en pondant des œufs dans le sable. qu'elle confie ensuite au soleil pour l'éclosion. Ouais. Et il y a une petite particularité avec ces instituts qui est assez rigolote, c'est ici en Brenne, chez nous, on en est très fiers, que Claude Piot, un chercheur, a trouvé la thermosensibilité. Et la thermosensibilité, c'est le fait que les œufs, quand ils sont soumis à moins de 28 degrés pendant leur incubation, ne portent que des mâles, et au-dessus de 29, que des femelles. Et entre 28 et 29, c'est le message génétique qui prend le dessus, et on a trouvé ça ici, en Brenne.
D'accord, c'est-à-dire qu'un degré de plus, et hop, on devient une fille.
Exactement, c'est exactement ça.
On a des paysages quand même qui sont très variés, parce que là on a changé de coin. On a une zone qui est complètement dégagée, donc on va dire que c'est de la plaine. Et puis alors en face, on a des friges de l'embroussaillement. Alors racontez-nous.
Oui, alors moi quand j'étais môme, ici il n'y avait que des prairies ouvertes, il n'y avait quasiment que ça. Il y avait quelques brandes, qu'on appelait des brandes, c'est-à-dire des zones à bruyères. Ouais. Et... aujourd'hui, les prairies ouvertes, il y en a de moins en moins parce que les terres agricoles partent tous pour du loisir de chasse en général. Et c'est les personnes qui achètent ça veulent avoir des buissons, de la friche pour avoir du sanglier. Donc le paysage ouvert qu'on voit sur la gauche avec les courlis, les vanneaux, tout ce cortège d'espèces qui est très intéressant et rare, est en train de se raréfier de plus en plus et est en train de disparaître.
C'est-à-dire que le chasseur veut du lourd, quoi. Il veut parce qu'on ne sait plus quoi en foutre en France du sanglier, donc on en veut encore plus ici.
On ne sait plus quoi en faire, mais c'est ça qui apparemment fait vibrer quand on chasse. Plus c'est gros, mieux c'est. Et la grosse bestiole qu'on a chassée chez nous, c'est le sanglier.
En même temps, il y a quand même des bénéficiaires. Ça peut être que les oiseaux d'eau sont moins tirés
ou... Ouais, c'est un des avantages quand même. C'est quand on a une passion sur le sanglier, on chasse moins le lapin, le lièvre, la perdrix, etc., qui se portent plutôt mieux. Et les oiseaux d'eau aussi, c'est une chasse qui est peut-être en train de baisser en ce moment.
Sinon, quels sont, je dirais, les grands équilibres de cette Brenne ? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne ? Parce que c'est aussi un immense écosystème.
Oui, alors c'est un immense écosystème. Il y a deux ou trois choses différentes. C'est la partie prairie, il faut une agriculture, une agriculture extensive, respectueuse de l'environnement, comme ça se pratiquait traditionnellement avec des élevages de vaches en général. Et puis il y a la partie étang où on a une activité de production de poissons aussi qui est relativement importante, qu'on appelle la pisciculture ici, oui. Évidemment. Et c'est cette pisciculture-là qui est un petit peu sur la sellette en ce moment parce qu'elle a tendance à vouloir intensifier sa production. Et quand on intensifie la production de carpes en particulier, ça provoque la disparition de la végétation des étangs et donc la disparition de la biodiversité.
Alors racontez-nous le rapport entre la disparition de la biodiversité et la carpe. Pourquoi ? Parce qu'elle est un peu au sommet de la pyramide alimentaire locale. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bouffe tout ?
Non, oui, la carpe, c'est ni plus ni moins une vache dans l'eau. Donc quand on en met beaucoup, elle mange tout et il n'y a plus rien qui repousse derrière.
Okay.
Et en plus, elle fouille le fond de la vase, donc ça fait des nutriments et des...
Tiens, il y a un petit bousier.
C'est un petit bousier qui passe là. Et donc, elle fouille le fond et ça crée de la turbidité dans l'eau qui empêche les plantes qui ont besoin de lumière de pousser.
Vous savez qu'il y a des oiseaux là qui vous regardent. C'est un héron, c'est lequel ?
C'est un pourpré. C'est un couple de hérons pourprés qui passent. Ouais. Ouais, il y a une colonie qui est juste à côté... Sur le territoire de la base de René.
Ils ne sont pas gênés par les antennes ? Parce que c'est pas des antennes de relais, ça, c'est nos amis militaires.
Ah, c'est des antennes militaires, ouais, mais ce coin très tranquille a la chance d'abriter une grosse, grosse colonie de hérons, tous azimuts. Il y a du pourpré, il y a des bioraux, il y a des crabiers, des cendrés, des aigrettes. C'est la plus grosse colonie qui est en ce moment en Brenne.
Vous parlez d'agriculture, alors ça tombe bien parce que là vous vouliez nous présenter aussi Sébastien. Oui, bonjour Sébastien.
Bonjour Denis.
On est sur votre propriété ici, alors c'est très intéressant parce qu'on voit des vaches de salaire. Alors racontez-nous parce qu'on se dit, l'accent du Cantal ici c'est pas exactement ça, c'est peut-être pas très très loin, mais qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce que vous faites ?
Alors effectivement, elles sont pas d'ici, mais elles étaient présentes lorsque j'ai repris la ferme il y a 6 ans, puisque mon prédécesseur avait jugé bon de choisir une race plutôt rustique pour exploiter des maigres pâturages de Brenne. Des prairies très extensives. Et donc moi j'ai fait le choix de continuer cet élevage extensif en conservant la race présente sur la ferme.
Ouais.
Et du coup d'essayer d'utiliser cette petite note extérieure comme un atout pour mettre en place une filière de vente directe où je propose la viande directement aux consommateurs. Et je me démarque un peu de ce qui se fait localement, puisque c'est plutôt la Charolaise et la Limousine qui sont maîtresses des lieux.
Quels sont les avantages, à la fois, je dirais, pour vous et aussi pour la nature? Parce qu'il y a un rapport direct entre les vaches et cette nature.
Effectivement, le fait de pratiquer une agriculture extensive demande effectivement moins de charges d'intrants, d'engrais, moins de mécanique, moins de fuel, etc., moins d'énergie. Et cela profite également à l'environnement de manière générale, puisque ces vaches entretiennent l'espace, elles pâturent des prairies,
ouais,
qui évitent du coup l'enfrichement qu'on peut observer sur une bonne part du territoire aujourd'hui. Et en plus, elles permettent de maintenir toute la biodiversité de nos prairies naturelles, les fleurs et toutes ces plantes assez rares et authentiques qu'on trouve ici en Brenne.
Regarde le bœuf qui se promène avec... Il suit les vaches pour manger les insectes quand elles se déplacent.
Oui. Bah oui, on a le goéland qui va suivre les tracteurs lorsqu'ils retournent de la terre. Et là, le garde-bœuf qui suit les vaches. Ouais, oula, ça y est. Alors là, c'est pas un couple, c'est carrément une colonie. Hein.
Oui, une bonne dizaine. Ils se promènent toujours en groupe. Hein. Ils suivent, il y en a même d'autres qui sont encore devant là-bas.
Mais c'est toujours intéressant parce que là, on est vraiment, dans un petit écosystème, c'est-à-dire entre certains poissons qui vont nettoyer les dents des requins ou bien des baleines. Et puis là, ce sont donc ces ronds garde-bœufs qui sont inféodés, en fait, au milieu et à la bête.
Oui, exactement. Puis là, il y a une alliance qui se fait entre la vache et le garde-bœuf. Quoi. Donc c'est un raccourci de ce que fait Sébastien ici. Hein. On a une activité agricole et la nature qui se greffe là-dessus, ou l'inverse, on ne sait pas trop.
Ouais.
Mais en tout cas, ça marche en équilibre et puis ça fonctionne très, très bien.
Il y a le parc naturel régional dans lequel nous sommes. Alors ça qui essaye, enfin qui a aussi une mission, on va dire, de développement économique. C'est en général ce qu'entendent n'importe quel élu, c'est là-dessus qu'ils partent. Qu'est-ce qu'ils font, enfin, qui est intéressant sur la biodiversité?
Bon, ils travaillent beaucoup sur la biodiversité, mais c'est vrai que c'est compliqué. Les outils qu'ils ont ne sont pas des outils contraignants. Hein. C'est forcément des contrats qu'on établit avec des gens qui sont d'accord pour s'engager dans une démarche respectueuse de l'environnement. Et depuis peu, on a l'espoir que enfin les mesures étant vont voir le jour. Elles sont à peu près basées sur ce qui se passe sur l'agriculture. On donne une prime à l'hectare en fonction de la richesse de l'étang ou pas, et en fonction aussi de l'intensification de la pisciculture.
D'accord.
Donc si on fait la pisciculture extensive, respectueuse de l'environnement, on pourra prétendre à cette prime-là. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ça fait longtemps que ça aurait dû être mis en place. Et il semblerait qu'on prenne ce chemin maintenant.
Alors Sébastien, on va se diriger vers des apiculteurs, ce qui prouve que votre milieu est quand même extrêmement sain. Donc là, ils vont se faire peut-être une petite transhumance d'abeilles parce que je vois qu'ils sont en train de charger sur leur camionnette.
Là, je crois qu'ils déchargent des jeunes ruches qu'ils apportent sur le rucher, là, effectivement,
oui,
puisqu'on est en période où les colonies d'abeilles se développent énormément. Et donc, l'apiculteur à qui je prête la parcelle pour déposer ses ruches a développé des jeunes essaims qu'il a installés ici. Et puis, il y a également une partie de récolte de miel de printemps qui est en cours.
D'accord.
Toutes les fleurs d'aubépine et toutes les fleurs sauvages qu'on a dans nos prairies ont été récoltées par nos abeilles. Et maintenant, elles vont donner un bon miel de printemps. D'ailleurs, dit miel de Brenne.
Voilà. Et alors, le mélange viande de salaire et miel, vous n'avez pas encore essayé d'un point de vue culinaire. C'est peut-être que c'est...
Je ne suis pas un grand chef cuisinier, mais il y a certainement des belles recettes à élaborer avec
voilà.
Ça.
Bien, merci à Sébastien et Louis et ses vaches de salaire, ainsi qu'à Nicolas Van Lingen, donc homme que vous retrouvez sur son site avec évidemment pas mal de ses photos. Il y a un homme que je n'ai pas interviewé parce qu'il n'était pas disponible, c'était Gargantua. Parce qu'en fait, pour aller de Tours à Limoges, notre homme a traversé la Brenne à pied et la boue le gênait. Alors il secouait ses bottes, vous imaginez bien ça. Et à chaque fois, il tombait à cette boue pour former une butte. C'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle des butons, comme ça que l'on voit aussi dans cette fameuse Brenne. Alors, si vous aimez les carpes et si vous êtes allemand, ça vous parle. Et oui, pourquoi on élève aussi beaucoup de carpes? Parce qu'en fait, c'est le plat traditionnel à Noël des Allemands. Et on exporte, et oui, on exporte ainsi nos carpes. Dans quelques instants, eh bien, ce sera l'actualité avec Nathalie Fontrelle, juste après Winston McAnuff. Garden of Love. Alors vous évitez sur le jardin de l'amour les pesticides, vous évitez le glyphosate parce que sinon l'amour ça pousse pas. Ah, c'est comme ça. Bel après-midi sur France Inter.
Cause we're working for a crown. Yeah, we're living charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, cause the truth we can't deny. You're welcome, you're welcome to my garden of love. But we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to master smile, you can't rewind. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love.
Très agréable ça, Winston McAnuff sur France Inter. Si vous aimez Terre Sauvage, notre partenaire, ben moi je peux vous renvoyer à ce numéro donc de mai. Vous avez un article sur la vache d'Aubrac, vous avez un article sur les pivoines, évidemment, c'est le moment des pivoines. Et puis un très long article sur le Costa Rica et sur la piste du Jaguar, sans oublier la fête de la nature que l'on va fêter nous aussi. Donc ce sera fin mai. Et puis comme il y a tous les mois aussi un sentier nature, ben ça se passe dans l'Ariège, dans ce très beau département, non loin de l'Espagne. Donc les sentiers nature dans l'Ariège. Une qui n'est rien pour l'Ariège, mais qui est déjà là. Ah, hein, bah oui, ça me paraît d'être en forme. C'est la Nathalie Fontrelle.
Les oiseaux dans la oui, charmille.
Oui, voilà, c'est joli, mais là, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Eh ben oui, c'est l'actualité avec Nathalie Fontrelle. Bonjour Nathalie.
Bonjour Denis.
C'était bien la Brenne. Hein,
oui, les étangs.
Ouah, bon, c'est peut-être pas le moment de se baigner actuellement. Alors, notre actualité, on ne peut pas dire qu'il nous casse vraiment les oreilles. Quoi ? Le débat sur la transition énergétique ronronne un petit peu.
Oui, mais de temps à autre, il pousse de petits cris. C'est le cas depuis deux semaines. Cri de joie pour les professionnels des énergies renouvelables, puisque le débat s'oriente vers la promotion des énergies vertes. On en attendait pas moins quand même. Hein. Tout en n'oubliant pas, à la demande du MEDEF, le nucléaire et les gaz de schiste.
Et ça, évidemment, ça fait hurler les écologistes. Mais alors, est-ce qu'il y a quand même des choses concrètes dans ce débat ?
Oui, j'en... Oui,
cachez votre joie, oui.
J'en ai trouvé. Avec cette proposition des experts, la réduction de la vitesse maximale autorisée sur les routes et les autoroutes, oui. François Mauzan est l'un des rapporteurs du groupe Efficacité énergétique.
On a calculé effectivement qu'une baisse de 10 km/h sur les autoroutes, sur les voies rapides et les nationales, permettrait d'économiser de l'ordre de 1,4 million de tonnes équivalent pétrole. Donc ça représente un peu plus de 3%. Ça peut paraître pas énorme, mais c'est quand même significatif par rapport à un secteur qui est complètement prisonnier du pétrole.
En Espagne, on roule à 120 km/h. Enfin, entre autres, il y a d'autres pays aussi, au lieu de 130. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'arlésienne, cette histoire, Nathalie ?
Un peu, oui. Ouais, hein. L'idée a été proposée bien des fois, lorsque la France préparait son plan climat ou encore pendant le Grenelle de l'environnement.
Alors, moi, je préfère convaincu, mais enfin, le mieux, c'est encore de faire du vélo.
Comme hein vous, mais ou oui. D'inventer de nouveaux carburants et des moteurs moins gourmands. Thierry Salomon est également rapporteur des travaux.
Il nous faut très vite que nos constructeurs sortent une gamme de véhicules adaptés aux petits trajets, qui soient des véhicules à 1 litre, 2 litres, aux 100 km. Et également aussi qu'on réfléchisse sur des véhicules capables de faire des trajets plus importants, peut-être avec d'autres sources d'énergie. C'est le passage au gaz, mais à partir de gaz d'origine énergie renouvelable, du gaz méthane et pas du tout du gaz de schiste. C'est la boîte de Pandore, non.
Donc Thierry Salomon de l'association Négawatt. Ah, les gaz de schiste, mon amour. Alors Nathalie, au fait, où en est-on du rapport parlementaire sur les alternatives à la fracturation hydraulique?
La quoi?
La fracturation.
Ah non, 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 Denis. Fracturation, ça fait mal. Hein.
Ouais.
J'ai assisté à l'audition des industriels et des scientifiques par les parlementaires et ça m'a frappé. On ne parle pas de fracturation. Écoutez le député Christian Bataille de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Moi, je suis professeur de lettres. Alors, je pense que les mots sont très importants. La fracturation induit un geste, un acte violent. Vous avez entendu qu'il ne s'agit pas de maltraiter le sous-sol, mais d'élargir les fissures, de les relier entre elles, de permettre au gaz qui est contenu dans la roche de sortir pour que nous puissions le recueillir.
Alors, si pas fracturation, on l'appelle comment cette technique ?
Moi, je dirais fissuration, mais certains disent massage. Je trouve que c'est un peu doucereux. Mais fissuration correspond véritablement à l'opération physique telle qu'elle sera tentée.
Massage et pourquoi pas chatouille, hein ?
Oui, chatouille, caresse, mais on est plus dans l'industrie, là. Hein.
C'est extraordinaire, on peut rajouter modelage, mais effectivement, massage de la roche, on peut y aller, quoi, chatouille, oui.
Eh ben, pourquoi pas ?
Ben oui, c'est ça. En fait, on ne dispose pas encore du rapport. Hein,
ah dire. Non, oui. Mais je pense que la conclusion est déjà écrite. Hein. L'alternative à la fracturation hydraulique, c'est la fracturation hydraulique
ouais.
Propre, qui utilise moins d'eau, moins de produits chimiques.
Tu n'es pas rastafarien, tu chantes de l'origé. Ta chanson ne comprend rien et quand tu l'achètes en anglais, mets de l'huile. Mets de l'huile.
Ah oui, 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 mets de l'huile. Autre sujet, Nathalie, le Conseil économique, social et environnemental s'est saisi d'une autre question, l'agriculture et l'eau.
Il a voté un avis prônant un certain nombre de solutions pour lutter contre les pollutions et éviter l'usage abusif des produits chimiques, pesticides et engrais. Florence Denier-Pasquier était rapporteure de l'avis.
Parmi les solutions, les légumineuses, ce sont une famille de plantes qui produit naturellement un engrais qui peut permettre de se substituer aux engrais dérivés du pétrole. Ils permettent aussi de lutter contre le lessivage des nitrates dans les sols et donc de réduire les pollutions des eaux.
Vous dites également qu'il faudrait taxer les engrais.
Il s'agit de taxer les excès d'engrais d'origine minérale. La taxe en fait, est reversée aux agriculteurs via le programme des agences de l'eau pour envisager un programme d'accompagnement, de formation, diffusion des bonnes pratiques, accompagnement technique, parce que suivant les régions, les solutions ne sont pas les mêmes. Donc il faut vraiment faire du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Mise en place progressivement, ça peut être un facteur de réduction des coûts. Et un certain nombre d'exploitations que nous avons rencontrées l'ont fait, non pour des raisons environnementales, mais pour des raisons de maîtrise de leurs coûts. Par exemple, production laitière, j'ai un exemple où les engrais ont été réduits par 10, l'irrigation aussi fortement réduite pour un même niveau de production laitière par vache.
Changement de comportement, de mentalité et donc aussi des solutions qui peuvent fonctionner. Alors c'était aussi l'occasion, Nathalie, de rappeler ce que coûtent les pollutions agricoles aux Français.
Oui, pour traiter l'eau, avant de la distribuer, au moins 640 millions d'euros par an.
Ben c'est bien, on a les moyens. Et cet avis a été voté ?
Oui, Denis, mais ce n'était pas gagné, parce que la FNSEA était contre, notamment parce que l'avis ne veut pas ouvrir le robinet de l'irrigation. Ouais. Joseph Giroux siège au Conseil économique, social et environnemental. Il est aussi agriculteur.
On développe une politique malthusienne de la ressource, c'est-à-dire qu'on se refuse à créer de nouvelles ressources, alors que dans des régions notamment qui n'ont pas de ressources naturelles d'eau, on peut en créer par le stockage.
L'usage des engrais minéraux ?
Les engrais minéraux, je crois qu'on mène une action depuis de longue date. On a tout un travail avec un développement des plantes fumures dans les exploitations, d'une bonne utilisation des fumiers, des lisiers, enfin de tout ce qui est déchets. Je dois dire qu'une taxation supplémentaire va peser une charge supplémentaire pour l'agriculture française.
En tant qu'agriculteur, quand vous entendez ce que coûte à la collectivité les pollutions diffuses, ça vous fait quoi ?
Les calculs, on demande à ce qu'ils soient vérifiés sur la réalité des pollutions diffuses et de ce qu'elles coûtent.
Oui, c'est pas exactement terminé. Bon, allez à vos calculettes, Nathalie. On va recompter et on vous dit décidément que vous êtes omnibulé par les taxes. Et cette fois-ci, c'est la taxe sur les gaz frigorigènes proposée par le Comité pour la fiscalité écologique.
Oui, il s'agirait de taxer les HFC qui ont remplacé les CFC interdits parce qu'ils détruisent la couche d'ozone. Mais les HFC ne sont pas inoffensifs, ce sont des gaz à effet de serre et les appareils qui fonctionnent avec ces gaz fuient. Mais qu'en disent les utilisateurs ? J'ai posé la question à Jean-Marie Rouèche, le directeur technique de Monoprix. Nous étions justement dans le local de fabrication du froid d'un magasin parisien.
Nous sommes ici dans la centrale de production du froid pour les meubles froids. On est dans un local technique avec 6 compresseurs qui fonctionnent avec un fluide HFC et du CO2. Le changement de gaz a accentué ce taux de fuite puisqu'on a des gaz maintenant avec des molécules qui sont encore plus petites que les gaz que l'on utilisait avant et on a des problèmes sur les joints. On a des gaz aussi qui sont très corrosifs, qui percent les tuyauteries et qui percent surtout les joints dans tous les raccords. Donc on suit en permanence les volumes de fluide dans les installations pour mesurer les taux de fuite. Auparavant, il y a quelques années, on se contentait de recompléter les volumes manquants de fluide. Et maintenant, on commence par chercher la fuite, boucher le trou, remplacer le joint avant de recompléter.
Et si on vous dit, comme c'est envisagé, on va taxer les gaz réfrigérants ?
Alors, ça va être une catastrophe pour nous, puisque ça va nous coûter très très cher. Mais pour la planète, finalement, ça va inciter tous les industriels et tous les exploitants comme nous à aller beaucoup plus rapidement sur la pose de porte, aller beaucoup plus rapidement sur la recherche des fuites, et même évoluer sur de nouvelles installations avec beaucoup moins de fluide, donc moins de risque d'avoir de fuite. Donc tout ça sera meilleur pour la planète.
Chic, choc, très tendance et pas cher, durable au moins une fois par semaine, c'est CO2 Mon Amour avec Denis Chessot.
Enfin, on essaie, on fait ce qu'on peut. On va faire un petit tour maintenant dans les profondeurs avec le débat public sur l'enfouissement des déchets radioactifs qui est lancé.
Non, Denis.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Pas enfouissement. Ah. On dit stockage géologique profond.
Oui, c'est comme massage de la roche fracturée, d'accord.
Rappelez-vous l'importance de la sémantique.
C'est vrai. Ah, oui. Alors on ne dit plus non plus cimetière radioactif.
Vous êtes incorrigible. Non. Oui. Le projet CIGEO, vous le savez, se situe à cheval sur la Meuse et la Haute-Marne. Oui. Et là, depuis 20 ans, l'ANDRA...
L'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires.
Et oui, l'ANDRA travaille sur cette couche d'argile à 500 mètres de profondeur pour vérifier sa capacité à confiner la radioactivité pendant des milliers d'années.
Bon, et une question, comment l'humanité va-t-elle se souvenir à cette échelle de temps ?
C'est la question que j'ai posée à Marie-Claude Dupuis, la directrice de l'ANDRA.
On fait travailler les meilleurs scientifiques et ingénieurs sur les supports techniques pour porter les informations concernant le centre de stockage. On fait travailler les linguistes sur la forme des messages que nous allons transmettre de génération en génération. On fait travailler des artistes pour voir sous quelle, encore sur la forme de cette transmission de mémoire de génération en génération. Et on fera le maximum pour que cette mémoire soit transmise le plus longtemps possible de génération en génération. Ceci étant, il faut se mettre dans la situation où pour une raison X ou Y, on oublie qu'il y a des déchets radioactifs. Et c'est là où la technique et l'argile prend le relais. Une fois le stockage fermé, il n'y a pas de problème. On a même fait des calculs de sûreté en cas de forage intrusif pour une raison X ou Y. On étudie le cas, malgré tout, où on aurait perdu la mémoire de la présence de ces déchets à 500 mètres de profondeur et on regarde quel serait l'impact si jamais il y avait une intrusion intempestive.
Bon, eh bien, écoutez, on va voir tout ça dans quelques milliers d'années. chère Nathalie, avant de vous retrouver demain matin à 7h55 pour Planète Environnement, des nouvelles du printemps, non loin de vos crécionnières, là.
Écoutez, le printemps fleuri, pardon. Oui. Alors, j'ai mangé des pissenlits.
Très bien.
Ah ben oui, mais alors là, c'est...
C'est les jeunes pousses, hein, c'est ça.
Ah ouais, c'est bon. Voilà. Mais mon cheval n'était pas très content, parce qu'habituellement, c'est lui les déguste.
Mais vous lui laissez les fleurs, c'est tout.
Ah non, je mange aussi les fleurs.
Ah, vous bouffez aussi les fleurs.
Ah ouais, je mange
c'est
tout.
Bien, pas de reste, c'est formidable. Merci beaucoup Nathalie, à très vite.
Au revoir. À bientôt.
Voilà, et puis donc, on se retrouvera évidemment dans quelques temps, un petit mois avec une nouvelle actualité. Et alors, dites donc, j'ai un rat, là. Oui, non, pas pour vous le faire manger, on n'est pas pendant la commune, là, pas du tout. Non, mais vous allez voir que le rat est intéressant, et pour nous en parler, Jean-Marie Pell s'est intéressé au rat. Oui, mais là, d'un point de vue scientifique, il a découvert quelque chose, une histoire qui sera juste après Dusty Princefield. Oui, je regardais là ce que j'avais sous les yeux, choisi par Jean-Baptiste Audibert, toujours. Et notre réalisateur inspiré, Christophe Imbert. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was.
Yes, he was.
Il est venu avec une bête. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors c'est pas votre chienne, hein, c'est pas Sarah, non pas du tout, c'est un rat.
C'est un rat, on parle des rats.
On parle des rats.
Alors, les
grande
rats,
intelligence, on le sait.
Très intelligent, très proche de nous. Oui. C'est pourquoi quand on teste des substances toxiques ou médicamenteuses, c'est toujours sur des rats qu'on le fait. Oui. Parce que la manière dont réagit le rat sera probablement la manière dont nous réagirons nous-mêmes.
Bon, alors, donc, à bon pelte, bon rat. Donc, pourquoi cet amour du rat?
Parce que je trouve leur comportement très intéressant et ils évoquent nos comportements. On a fait une étude très approfondie à Chicago sur les capacités d'empathie des rats. Alors, on les a mis devant une cellule dans laquelle on a enfermé des rats. Et on a mis un rat devant la porte de la cellule et on a expliqué comment il faut faire pour lever le petit loquet pour que la cellule s'ouvre. Alors, on voit que très rapidement, le rat apprend et s'empresse de faire sortir le rat qui est enfermé.
Alors, on solidarité.
Dit, on s'est dit, tout à fait, on s'est dit, oui, mais c'est parce qu'il a besoin d'un copain. Il fait ça pour lui. Non, parce qu'on a goupillé un autre processus où, quand il a levé le loquet, le rat sort, mais il rentre dans une autre prison. Donc, il ne sort pas. D'accord. Mais il ouvre quand même le loquet. Et bien, on a fait encore une troisième expérience qui est encore plus sympathique. C'est qu'on a mis devant le rat une boîte ouverte de chocolat. Mais il n'a pas mangé les chocolats. Il a d'abord voulu libérer le copain. Et quand il a ouvert le loquet, le copain est sorti. Et ensemble, ils ont mangé du chocolat.
Oui.
C'est pas beau, ça. C'est magnifique. Oui. Eh bien, on a constaté que les femelles sont plus empathiques que les mâles. Parce que les mâles, ils ne sont pas tous gentils comme ça.
Mais les femelles
mises en expérience, toutes ont été particulièrement sympathiques et empathiques. Mais ils peuvent être aussi antipathiques. Alors ça, c'est les expériences de mon ami de Sors, de Nancy, qui est un éthologue, un spécialiste des comportements animaux. Vous allez écouter, ça vaut vraiment la peine. Il a fait l'expérience suivante. Il met des rats dans une cage. Cette cage, elle est barrée au milieu par quelque chose qui est un bassin d'eau. Puis de l'autre côté du bassin, donc il faut que le rat aille à l'eau pour aller chercher, il y a la nourriture. Alors on met 6 rats d'un côté. Alors ça donne ceci. Il y a 2 rats qui se jettent à l'eau et qui vont chercher la nourriture.
Floc, floc, floc.
Ils reviennent. Et il y en a 2 méchants qui leur piquent toute la nourriture qu'ils ont pris, parce qu'il y en a 2 qui sont donc des dominants et 2 qui sont des dominés. Le 5e rat, lui, il va chercher la nourriture, il la ramène et il ne se la laisse pas piquer. Il est autonome. Alors le 6e rat, c'est lamentable. Il est dans un tout petit coin, c'est le souffre-douleur. Il ramasse les petites miettes des croquettes, c'est le souffre-douleur.
Bon, alors là, il nous faut une suite, Jean-Marie.
Alors, il a pris 6 dominants. Il les a mis ensemble.
Oui.
Et au bout de 2 jours, il y avait de nouveau 2 dominants, 2 dominés, un autonome et un souffre-douleur. Après, il a mis 6 souffre-douleurs ensemble. Au bout de 2 jours, il y avait 2 dominants, 2 dominés, un souffre-douleur et un autonome. Donc, conclusion, les statuts ne sont pas définitifs. Et quand on a un statut de dominant, dans d'autres circonstances, on peut devenir un dominé. C'est quand même très intéressant. Donc tout n'est pas perdu. Et ceci, on va le comparer maintenant à ce qui se passe dans les cours des écoles, où on nous dit qu'il y a un souffre-douleur pour 10 gosses dans les écoles, ce que je trouve abominable. Je trouve ça abominable. Il faut arrêter. Moi, j'ai été souffre-douleur, donc je parle en connaissance de cause. Ça ne m'a pas trop mal réussi.
C'est ce que je vais vous dire. Vous avez bien sorti, là.
Mais j'ai sorti l'affaire. Non. Alors, ensuite, et c'est ici qu'il y a le clou de l'histoire, il a étudié dans le cerveau des rats les hormones de stress. Et il s'est aperçu que les plus stressés étaient les dominants parce qu'ils avaient peur de perdre leur statut. Ça, c'est d'accord. Extraordinaire. Alors, on voit dans ces expériences successives que les rats nous ressemblent vraiment beaucoup, ou bien que nous ressemblons beaucoup aux rats, avec notre capacité d'altruisme, notre capacité de sympathie, notre capacité d'antipathie, et notre tendance parfois à aller comme disait le catéchisme autrefois, aller vers le mal. Et moi, je trouve qu'on est plutôt incliné vers le bien. Et ça sera la conclusion, vers le bien. Voilà.
Merci Jean-Marie. Donc, nous regarderons notre boîte de Morora différemment aujourd'hui grâce à vous.
Tout à fait.
Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Merci de nous avoir suivis donc, au pays des rats, de l'actualité de Madagascar et de la Brenne. Merci à Pierrick Monsigny, Yann Guéhenné qui était à la technique, à Albert Rook, camarade aussi d'écriture, à Christophe Imbert qui réalisait l'émission et Stéphane Combe qui nous assistait, à Jean-Baptiste Audibert qui a choisi les disques, à Anne Gouzon de la Brenne qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Alors, possibilité hein, pour vous de podcaster cette émission, comme d'ailleurs aussi la Tulu Mon Petit Loup hein, que vous écouterez demain à 19h54 après les petits bateaux, donc n'hésitez pas aussi sur les podcasts. La semaine prochaine, et ben là aussi, on va dire pas mal le d'éclectisme, c'est-à-dire que on vous emmènera voir mais très discrètement, voir la ponte des tortues luttes en Guyane. Oui, c'est le moment. Et puis on vous fera découvrir une disco soupe à Nantes, autrement dit des gens qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Nous irons aussi du côté de Singapour sur le toit des maisons. On rencontrera un jeune qui nous parlera de son métier, puis encore des tas de choses qu'on ne sait pas encore parce
parce qu'on n'a pas fini de construire totalement cette émission. Restez à l'écoute de France Inter, c'est un petit message personnel. Les comtesses font congeler les saucisses. Je répète, les comtesses ont congelé les saucisses à l'intention de ma copine Clara Dupont-Mono qui vous attend avec sa chouette bande de chroniqueurs, Clara et les Chic Livres. C'est donc dans quelques instants. Je vous souhaite un excellent week-end avec du soleil, du bien-être, du printemps. Mais si ça arrive, soyez optimistes. Salut à tous.